N, Atelier du délire novateur, sur Radio Campus, 106,6 MHz, sur la bande FM, et www.campuslille.com, sur la toile.
La nation est-elle souveraine? Quand le plus grand nombre des individus qui la composent est dépouillé des droits politiques qui constituent la souveraineté? Non! Et cependant, vous venez de voir que ces mêmes décrets les ravissent à la plus grande partie des Français. Que serait donc votre déclaration des droits si ces décrets pouvaient subsister? Une vaine formule. Que serait la nation? Esclave. Car la liberté consiste à obéir aux lois qu'on s'est données, et la servitude à être contraint de se soumettre à une volonté étrangère. Quelle serait votre constitution? Une véritable aristocratie. Car l'aristocratie est l'État où une portion de citoyens est souveraine et le reste sujet. Et quelle aristocratie? La plus insupportable de toutes, celle des riches.
L'atelier du délire novateur vous propose une série d'émissions sur les chansons révolutionnaires et sociales de l'histoire. Cette semaine, 1789. Nous allons écouter La prise de la Bastille par Serge Kerval. Chanson nouvelle de Deux Dames de la Halle par Francesca Solville. Le tiers état par Jean-Pierre Lacot.
Sur les grands plans, le bourgeois et le marchand marchent à la Bastille, marchent à la Bastille, et partout l'ardeur brille. Les citoyens de tout rang et renvelant, rentemplant, tirent en plan, suivent les drapeaux flottants, ils vont d'un pas intrépide, ils vont d'un pas intrépide, rien ne les intimide. De tous côtés l'on entend et renvelant, rentemplant, tirent en plan, le bruit de l'air insonnant contre la capitale, contre la capitale, aux Bastilles fatales. Et de tous côtés l'on entend et renvelant, rentemplant, tirent en plan, le bruit de l'air insonnant contre la capitale. Sortez de vos cachots funèbres, victimes d'un joug détesté. Voyez à travers les ténèbres les rayons de la liberté. Trop longtemps la sombre tristesse versa son pollen en vos cœurs. Saignez des fleurs de l'allégresse le front de vos tirelire en plan, le bourgeois et le marchand marchent à la Bastille, marchent à la Bastille, et partout l'ardeur brille, et partout l'ardeur brille.
Cato, veux-tu venir avec moi aux Tuileries pour y voir le roi? Prends le casaquin que t'avais dimanche et tâche d'avoir une chemise blanche.
Je le voudrais bien de tout mon cœur, ça sera pour moi beaucoup d'honneur. Mais tu parles comme une hébétée, on nous en laissera pas l'entrée.
Moi je te réponds d'entrer partout et que je vais rompre tout bout en bout. Je n'ai qu'à parler à ce gros sang de Suisse, quel propre enfant de ma mère nourrice.
Je ne savais pas que t'avais l'honneur de connaître un aussi grand seigneur. Il peut bien nous faire voir Louis XVI et la fille à Marie-Thérèse.
J'espère bien que je verrai le dauphin, qui est plus beau qu'un petit séraphin, ainsi que sa sœur Madame Première, qui est tout le portrait de monsieur son père.
V'là donc venu demeurer ici. Allez, croyez-moi, restez-y. Car aussi bien le château de Versailles ne vaut quasiment plus rien qui vaille.
J'ai su que vous restiez à Paris, pardon de la liberté que j'ai pris. Ne retournez jamais en Allemagne, il fait trop cher vivre en campagne.
Bonjour monseigneur le dauphin, à cette heure que vous v'là notre voisin. Je viendrai de temps en temps moi la guite, à cet à vous rendre notre visite.
Je ne savons pas si je nous trompons, n'êtes-vous pas de la race des Bourbons. Votre figure, votre ton, votre manière, c'est tout craché le portrait de votre mère.
Vous voir très touchant, bien content, vous savez que les Français sont francs. On dit qu'il y a de belles tapisseries, car sont dans le château des Tuileries.
Ils peuvent maintenir là tous les deux, ce lit-là n'est pas un lit ou deux. Ils ont bio faire la bagatelle, tombons jamais dans la ruelle.
Est-ce qu'accoucherait tout seul là-dedans, il y tiendrait bien six enfants.
Ali passe la saison des roses, car les femmes ont toujours quelque chose. C'est donc ça le lit de monsieur le dauphin, va y arranger son traversin. Surtout prenez garde qu'il ne tombe, et je suis bien votre servante crayon.
V'là donc celui de madame sa sœur, il est pour le moins plus meilleur. La cour de pointe en est toute neuve, tiens t'as dit, t'en verras la preuve.
Tiens regarde donc le grand miroir, il ne faut pas se baisser pour s'y voir. C'est plus cher qu'une autre marchandise, car on dit que c'est de la glace de Nice.
J'ai bien vu de la glace à Paris, plus épaisse et pas de si grand prix. L'an passé de bout en bout de la Seine, toute la rivière en était pleine.
Qu'a-t-on bien temps, il ne fait plus jour. Viens-l'en remercier, monsieur de Fribourg.
On sait que c'est un très galant homme. On le régalerons d'un coup de programme.
Les communes, le tiers, lassées de tant de lenteur, appuyées par l'opinion publique, déclarent en se constituant qu'elles représentent la nation.
La cohorte du clergé et de la noblesse voudrait que le tiers-état se tue. Ou qu'il gagne à la porte.
Qu'est-ce que le tiers-état ?
Tout.
Qu'a-t-il été jusqu'à présent dans l'ordre politique ?
Rien.
Que demande-t-il ?
À y devenir quelque chose.
Le tiers-état, par Jean-Pierre Lacour.
Si le clergé, si la noblesse, mes chers amis, ont pour nous si grande rudesse, tant de mépris, laissons-les tous sans faire à croire, prendre l'état. En attendant, nous allons boire au tiers état. Nous devons tout à la puissance, au respect égard. D'où l'homme a-t-il pris naissance? C'est du hasard. Le premier qui s'en rendit maître fut un soldat. Il fut roi, d'où tenait-il l'être du tiers état? Vous qui nous traitez de racailles si poliment, comme nous, vous paierez la taille très noblement. Vive le sauveur de la France, Necker viva. D'où ce héros tient-il naissance du tiers état?
22 juin 1791. Paraine en Argonne. Le roi, accompagné de sa famille, est arrêté alors qu'il fuit la France. C'est la fin d'une illusion.
La poursuite et le retour de la famille ci-devant royale par Simone Barthel.
Ils sont partis sans que rien les arrête. Laissez-les faire, ils n'iront pas bien loin. De déserter, c'est un très malhonnête. Dans les ingrats, on vient notre soin. Au trébuchet, donnant à pleine tête, il dit son prix tout en faisant chemin. Couple perfide, réservez vos larmes pour arroser le prix de vos forfaits. Le seul pouvoir de vos armes, il vous confond dans tous vos vains projets. Un peuple libre reconnaît les charmes de n'être plus au rang de vos sujets.
Ah, ça ira par les porte-manteaux.
Les aristocrates à la lanterne, ah ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates on les pendra, ah ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates à la lanterne, ah ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates on les pendra.
Permanente par Juliette Gréco.
Le député guillotin dans la médecine, par les experts et très malin, fit une machine pour purger le corps français de tous les gens à projet. C'est la guillotine au guet, c'est la guillotine. Pour punir la trahison, la haute rapine, les amateurs de blasons, les gens qu'on devine, voilà pour qui l'on a fait ce dont on connaît les faits. C'est la guillotine, okay. C'est la guillotine. À force de comploter, la horde mutine a gagné sans y penser, migraine maligne. Pour guérir ces messieurs-là, un jour on les mènera. Ah, la guillotine au guet, oh, la guillotine. Ah, la guillotine.
Mort de Louis Capet par Marc Augeret.
Le 21 janvier 793, Cabré tyran dernier, qu'on nommait Louis XVI, a reçu ses étrennes pour avoir conspiré ce cuillard de Varennes et donc guillotiné. Ayant prémédité la perte de la France contre la liberté, fut la grande offense, la raison souveraine, diminuant son rang, par conseil de la reine, fit répandre le sang. Louis Capet était héros du fanatisme, des prêtres soutenaient le sanglant catéchisme, se parjure despote, pour le peuple jurait, le blason, la calotte, ce tyran soutenait. Il pouvait être heureux, étant roi sur la terre, pour lui c'est malheureux qu'il fût sans caractère, pour avoir une tête, pour être couronné, étant faible et trop bête, il fut guillotiné. Pas que le nom de roi soit hors de nos mémoires, pour soutenir la loi, remportons des victoires, le bonnet et la pique, conservons bien français, vive la République, crions à tout jamais.
L'Atelier du délire novateur vous présente une série d'émissions sur les chansons révolutionnaires et sociales de l'histoire. Cette semaine, 1789. Culotte par Marc Augeret.
Amis, assez et trop longtemps, sous le règne affreux des tyrans, on chanta les despotes, on chanta les despotes. Sous celui de la liberté, des lois et de l'égalité, chantons les sans-culottes, chantons les sans-culottes. Si l'on ne voit plus à Paris les insolents petits marquis, ni tyrans à calotte, ni tyrans à calotte. En brisant ce joug infernal, si le pauvre au riche est égal, c'est grâce aux sans-culottes, c'est grâce aux sans-culottes. Leur front à la terre attaché, dans la poussière était caché, à l'esprit des despotes, à l'esprit des despotes. Levons-nous, ont-ils dit un jour, ah bah messieurs, chacun son tour, vive les sans-culottes, vive les sans-culottes. La tête de Capet tomba, son sceptre des reins se courba, devant les patriotes, devant les patriotes. Au règne désastre des rois, succéda le règne des lois, de par les sans-culottes, de par les sans-culottes. Traîtres régnaient au Sénat, on les nommait hommes d'État, ils servaient les despotes, ils servaient les despotes. Paris en masse se leva, tout disparut, il ne resta que les vrais sans-culottes, que les vrais sans-culottes.
Hélène Delaveau.
Le saviez-vous, républicain, quel sort était le sort du nègre? Qu'à son rang parmi les humains, un sage décréré intègre. Il était esclave en naissant, puni de mort pour un seul geste. On vendait jusqu'à son enfant le sucre est atteint de son sang. Bénis, m'épargnis tout le reste. Bénis, m'épargnis tout le reste. De vrais bourreaux altérés d'or, promettant d'alléger ses chaînes, faisaient pour les serrer encore des tentatives inhumaines. Mais contre leur complot pervers, c'est la nature qui proteste. Et deux peuples brisant leur fer ont malgré la distance des mers fini par s'entendre de reste. Fini par s'entendre de reste. Tendez vos arcs maigres marrons, nous portons la flamme à nos mèches, comme elle part de nos canons, que la mort vole avec vos flèches. Si des royalistes impurs, chez nous, chez vous, portent la peste, vous dans vos bois, nous dans nos murs, cernons ces ennemis obscurs. La canne à sucre ou le café n'ont choisi ni gérant ni maître. Cette mine est dans votre champ, nul aujourd'hui ne la conteste. Plus vous baignez en l'exploitant, plus il est juste assurément que le produit net vous en est.
Extrait du discours de Robespierre du 11 août 1791 par Serge Reggiani sur une musique de Jacques Higelin.
Que dis-je ? Ma liberté, ma vie, le droit d'obtenir sûreté ou vengeance pour moi et pour ceux qui me sont chers, le droit de repousser l'oppression, celui d'exercer librement toutes les facultés de mon esprit et de mon cœur. Tous ces biens si doux, les premiers de ceux que la nature a départis à l'homme, ne sont-ils pas confiés, comme les vôtres, à la garde des lois? Et vous dites que je n'ai point d'intérêt à ces lois. Et vous voulez me dépouiller de la part que je dois avoir, comme vous, dans l'administration de la chose publique. Et cela, par la seule raison que vous êtes plus riche que moi. Ah, si la balance cessait d'être égale, n'est-ce pas en faveur des citoyens les moins aisés qu'elle devrait pencher ? Les lois, l'autorité publique, n'est-elle pas établie pour protéger la faiblesse contre l'injustice et l'oppression ? C'est donc blesser tous les principes sociaux que de la placer tout entière entre les mains des riches. Mais les riches, les hommes puissants, ont raisonné autrement. Par un étrange abus de mots, ils ont restreint à certains objets l'idée générale de propriété. Ils se sont appelés seuls propriétaires. Ils ont prétendu que les propriétaires seuls étaient dignes du nom de citoyens. Ils ont nommé leur intérêt particulier l'intérêt général. Et pour assurer le succès de cette prétention, ils se sont emparés de toute la puissance sociale. Et nous, oh, faiblesse des hommes, nous qui prétendons à les ramener au principe de l'égalité et de la justice, c'est encore sur ces absurdes et cruels préjugés que nous cherchons, sans nous en apercevoir, à élever notre Constitution. Mais quel est donc après tout ce rare mérite de payer un marc d'argent ou telle autre imposition à laquelle vous attachez de si hautes prérogatives? Si vous portez au trésor public une contribution plus considérable que la mienne, n'est-ce pas par la raison que la société vous a procuré de plus grands avantages pécuniaires? Et si nous voulons presser cette idée, quelle est la source de ces extrêmes inégalités des fortunes qui rassemblent toutes les richesses en un petit nombre de mains? Ne sont-ce pas les mauvaises lois, les mauvais gouvernements, enfin, tous les vices des sociétés corrompues? Or, pourquoi faut-il que ceux qui sont les victimes de ces abus soient encore punis de leur malheur par la perte de la dignité de citoyen? Je ne vous envie point le partage avantageux que vous avez reçu, puisque cette inégalité est un mal nécessaire ou incurable. Mais ne m'enlevez pas du moins les biens imprescriptibles. Aucune loi humaine ne peut me ravir. Permettez même que je puisse être fier, quelquefois, d'une honorable pauvreté. Et ne cherchez point à m'humilier par l'orgueilleuse prétention de vous réserver la qualité de souverain pour ne me laisser que celle de sujet.
L'atelier du délire novateur vous présente une série d'émissions sur les chansons révolutionnaires et sociales de l'histoire. Cette semaine, 1789.
Avertissant les plus lointains échos, ainsi qu'une immense crécelle, marchant d'aplomb sous les glorieux lambeaux de sa bannière immortelle. V'là le bataillon de la Moselle en sabots, v'là le bataillon de la Moselle, v'là le bataillon de la Moselle en sabots, v'là le bataillon de la Moselle, v'là le bataillon de la Moselle en sabots, v'là le bataillon de la Moselle. Pour armes des fusils de la veille encore chaud, là-dessus le gai soleil bruisselle. Nos sabres, la preuve que nous ne sommes pas manchots, tiennent jamais que par une ficelle. V'là le bataillon de la Moselle en sabots, v'là le bataillon de la Moselle, v'là le bataillon de la Moselle en sabots, v'là le bataillon de la Moselle, v'là le bataillon de la Moselle en sabots, v'là le bataillon de la Moselle. Trois galonnés, vos hussards si pharaux, des talons jusqu'à l'aisselle. Ils s'enfuiront devant nos bleus sarraux, si mieux que la trame se décèle. V'là le bataillon de la Moselle en sabots, v'là le bataillon de la Moselle, v'là le bataillon de la Moselle en sabots, v'là le bataillon de la Moselle, v'là le bataillon de la Moselle en sabots, v'là le bataillon de la Moselle.
Et quoi qu'on se crie, tu songerais au coteau de la province maternelle. Fixe plutôt tes regards sur nos drapeaux, notre France où donc est-elle? Là le bataillon de la Moselle en sabot, là le bataillon de la Moselle. Là le bataillon de la Moselle en sabot, là le bataillon de la Moselle. Là le bataillon de la Moselle en sabot, là le bataillon de la Moselle. Mon général, comme ses canons sont beaux, cette redoute ennemie est belle. Vous l'ouvriez, nous achetez le tout en gros, cette affaire-là vous convient-elle? V'là le bataillon de la Moselle en sabot, v'là le bataillon de la Moselle. V'là le bataillon de la Moselle en sabot, v'là le bataillon de la Moselle. V'là le bataillon de la Moselle en sabot, v'là le bataillon de la Moselle. V'là le bataillon de la Moselle en sabot, v'là le bataillon de la Moselle. V'là le bataillon de la Moselle en sabot, v'là le bataillon de la Moselle. V'là le bataillon de la Moselle en sabot, v'là le bataillon de la Moselle. V'là le bataillon de la Moselle en sabot, v'là le bataillon de la Moselle.
Vanni par Bérard.
Déjà Verdun s'est-il rendu et tout semblait perdu. Le grand danton du Grand Paris appelle les contrées mal équipées. Des haillons formant les bataillons, ils vont au pas marchant comme de vieux soldats. L'orgueil au front, les idées avant et l'affront. Les Français de Valmy vers l'ennemi marche la mine altière. Ils vont s'offrir au danger pour nous venger et reprendre la frontière. Les enfants de Paris, jeunes contrées, vont sur la route immense et dans l'air monte ses cris. Pour le pays, sachons mourir, vive la France! Brunswick attend la joie au cœur, certains d'être vainqueurs de ces tailleurs et savetiers, marauds, mauvais troupiers. Au régiment des vétérans, il fait serrer les rangs dans nos vallons, qui sont la route de Chalon. Vers les lauriers, il va guider ses vieux guerriers. Les Français de Valmy, vers l'ennemi, Hardy lève la tête. Un rayon brille dans l'air comme un éclair, ils ont mis la baïonnette. Les enfants de Paris, jeunes contrées, entrent dans la fournaise. Et dans nos champs envahis, ils vont mourir, c'est en chantant la Marseillaise. Lancer l'ennemi sous le choc après-mi, il recule et nos bataillons à feu sont tourbillons de ses canons dans le lointain. Déjà la voix s'éteint, le tambour bat ordonnant la fin du combat. Et gloire à nous, c'est la retraite, entendez-vous? L'ennemi remporte la victoire. Ces tailleurs en régiment ont bravement délivré le territoire. Et grâce à ces conscrits, le vieux Paris, dans un geste héroïque, devant l'univers surpris, se libérait et proclamait la République. Oh!
la Carmagnole par Toscani.
Madame Vito avait promis de faire égorger tout Paris, de faire égorger tout Paris. Mais le coup a manqué grâce à nos canonniers. Dansons la Carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la Carmagnole, vive le son du canon. Monsieur Vito avait promis, Monsieur Vito avait promis d'être fidèle à son pays, d'être fidèle à son pays. Mais il y a manqué, ne faisons plus quartier. Dansons la Carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la Carmagnole, vive le son du canon.
Dansons la Carmagnole, vive le son.
Nous nous souviendrons toujours des sans-culottes, des faubourgs, des sans-culottes, des faubourgs. À leur santé, buvons, vive ces flancs-lurons. Dansons la Carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la Carmagnole, vive le son du canon.
Dansons la Carmagnole, vive le son.
L'Atelier du délire novateur vous présente une série d'émissions sur les chansons révolutionnaires et sociales de l'histoire. Cette semaine, 1789. Extrait du dernier discours de Robespierre, le 8 Thermidor an 2, dit « Discours du Testament » par Serge Reggiani sur une musique de Léo Ferré.
Qu'a-t-on fait pour tourner nos succès militaires au profit de nos principes, pour prévenir les dangers de la victoire ou pour nous en assurer les fouets? Surveiller la victoire! Surveiller la Belgique! Je vous avertis que votre décret contre les Anglais a été éternellement violé. Que l'Angleterre, tant maltraitée par nos discours, est ménagée par nos armes. Je vous avertis que les comédies philanthropiques jouées par Dumouriez dans la Belgique sont répétées aujourd'hui. Que l'on s'amuse à planter des arbres stériles de liberté dans le sol ennemi, au lieu de cueillir les fruits de la victoire, et que les esclaves vaincus sont favorisés aux dépens de la République victorieuse. Nos ennemis se retirent et nous laissent à nos divisions intestines. Songez à la fin de la campagne! Craignez les factions intérieures! Craignez les intrigues favorisées par l'éloignement dans une terre étrangère! On a semé la division parmi les généraux. L'aristocratie militaire est protégée! Les généraux fidèles sont persécutés. L'administration militaire s'enveloppe d'une autorité suspecte. On a violé vos décrets pour secouer le joug, une surveillance nécessaire. Ces vérités valent bien des épigrammes. contre-révolution est dans l'administration des finances. Elle porte toute sur un système d'innovation contre-révolutionnaire déguisé sous les dehors du patriotisme. Elle a pour but de fomenter l'agiotage, d'ébranler le crédit public en déshonorant la loyauté française, de favoriser les riches créanciers, de ruiner et de désespérer les pauvres, de multiplier les mécontents, de dépouiller le peuple des biens nationaux et d'amener insensiblement la ruine de la fortune publique. Quels sont les administrateurs suprêmes de nos finances, des brissotins, des feuillants, des aristocrates et des fripons connus? Ce sont des Cambons, les Malarmés, des Ramel. Ce sont les compagnons et les successeurs de Chabot, de Fabre et de Julien de Toulouse. C'est un nouveau stratagème imaginé pour multiplier les ennemis du comité, dont la perte est le principal but de toutes les conspirations. La trésorerie nationale, dirigée par un contre-révolutionnaire hypocrite nommé Lermina, seconde parfaitement leur vue par le plan qu'elle a adopté de mettre des entraves à toutes les dépenses urgentes sous le prétexte d'un attachement scrupuleux aux formes, de ne payer personne excepté les aristocrates et de vexer les citoyens malaisés par des refus, par des retards et souvent par des provocations odieuses. La contre-révolution est dans toutes les parties de l'économie politique. Les conspirateurs nous ont précipités, malgré nous, dans des mesures violentes que leurs crimes seuls ont rendues nécessaires et réduit la République à la plus affreuse disette et qui l'aurait affamée sans le concours des événements les plus inattendus. Ce système était l'ouvrage de l'étranger qu'il a proposé par l'organe vénal des Chabot, des Lullier, des Hébert et tant d'autres. C'est là. Il faut tous les efforts du génie pour ramener la République à un régime naturel et doux que seul peut entretenir l'abondance. Et cet ouvrage n'est pas encore commencé. Français, ne souffrez pas que vos ennemis cherchent à abaisser vos âmes et à énerver vos vertus par une funeste doctrine. Fouché. La mort n'est point un sommeil éternel. Citoyens, effacez des tombeaux cette maxime impie qui jette un crêpe funèbre sur la nature et qui insulte à la mort. Gravez-y plutôt celle-ci. La mort est le commencement de l'immortalité. Peuple, souviens-toi que si dans la République la justice ne règne pas avec un empire absolu, et si ce mot ne signifie pas l'amour de l'égalité et de la patrie, la liberté n'est qu'un vain nom. Peuple, toi que l'on craint, que l'on flatte et que l'on méprise, toi, souverain reconnu, qu'on traite toujours en esclave, souviens-toi que partout où la justice ne règne pas, ce sont les passions des magistrats et que le peuple a changé de chaîne et non de destinée. Souviens-toi qu'il existe dans ton sein une ligue de fripons qui lutte contre la vertu publique et qui a plus d'influence que toi-même sur tes propres affaires, qui te redoute et te flatte en masse, mais te proscrit en détail dans la personne de tous les bons citoyens. Rappelle-toi que, loin de sacrifier cette nuée de fripons à ton bonheur, tes ennemis veulent te sacrifier à cette poignée de fripons, auteurs de tous nos maux et seuls obstacles à la prospérité publique. Sache que tout homme qui s'élèvera pour défendre ta cause et la morale publique sera accablé d'avanie et proscrit par les fripons. Sache que tout ami de la liberté sera toujours placé entre un devoir et une calomnie. Que ceux qui ne pourront être accusés d'avoir trahi seront accusés d'ambition. Que l'influence de la probité et des principes sera comparée à la force de la tyrannie et à la violence des factions. Que ta confiance et ton estime seront des titres de proscription pour tous tes amis. Que les cris du patriotisme opprimé seront appelés des cris de sédition et que, n'osant t'attaquer toi-même en masse, on te proscrira en détail dans la personne de tous les bons citoyens jusqu'à ce que les ambitieux aient organisé leur tyrannie. Tel est l'empire des tyrans armés contre nous. Telle est l'influence de leur ligue avec tous les hommes corrompus, toujours prêts à les servir. Ainsi donc, les scélérats nous imposent la loi de trahir le peuple à peine d'être appelé dictateur. Souscrirons-nous à cette loi? Non! Défendons le peuple au risque d'en être estimé. Qu'il court à l'échafaud par la route du crime. et nous, par celle de la vertu. Que peut-on objecter à celui qui veut dire la vérité et qui consent à mourir pour elle? Je suis fait pour combattre le crime. Non, pour le gouverner. Le temps n'est point arrivé où les hommes de bien peuvent servir impunément à la patrie. Les défenseurs de la liberté ne seront que des proscrits tant que la horde des fripons dominera.
Châtiment pour sa faute, car le peuple reprend ses droits. Vous vous êtes bien payé nos têtes, c'en est fini, messieurs les rois. Il faut plus compter sur les nôtres, on va s'offrir maintenant les vôtres, car c'est nous qui faisons.